Radio Kapi. Oh, Kapi.
Il est midi juste à Kinshasa, 13h à Bunia, Ituri. Voici les titres de votre journal. Agression de la RDC par le Rwanda. Le gouvernement congolais demande officiellement aux membres du Conseil de sécurité de publier le dernier rapport des experts de l'ONU. Cette position de la RDC a été exprimée hier mardi par le président de la République devant la tribune des Nations Unies à la 77e Assemblée générale de cette organisation mondiale. Un incendie s'est déclaré hier mardi après-midi dans un parking de la commune de la Kenya à Lubumbashi. La bourgmestre de cette commune appelle les hommes d'affaires, son entité, à avoir la culture des assurances pour ne pas tout perdre en cas de sinistre. L'invité de ce journal est le président des pétroliers du Maniema et conseiller provincial de la FEC en charge des hydrocarbures. Baou Ali Nazareth parle de la hausse vertigineuse des produits pétroliers à Kindu, chef-lieu de la province du Maniema. Mesdames, Messieurs, bonjour. Agression de la RDC par le Rwanda. Le gouvernement congolais demande officiellement aux membres du Conseil de sécurité de publier les derniers rapports des experts de l'ONU, mais aussi de le faire examiner et d'en tirer toutes les conséquences. Cette position de la RDC a été exprimée hier mardi par le président de la République devant la tribune des Nations Unies à la 77e Assemblée générale de cette organisation mondiale. Félix Antoine Tshisekedi a souligné que cette démarche va lever toutes les suspicions sur l'impartialité de l'ONU et la complicité de certains de ses membres. Il a aussi évoqué la question de la réévaluation du plan de retrait progressif de la MONUSCO. On écoute le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Ses propos ont été recueillis par Alain Irung, l'envoyé spécial des Radio Okapi à New York.
Le gouvernement congolais réitère sa demande au président du Conseil de sécurité de distribuer officiellement aux membres du Conseil le dernier rapport des experts de l'ONU sur la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo et de le faire examiner avec diligence par lui afin d'en tirer toutes les conséquences qui s'imposent sur le plan du droit, de la paix et de la sécurité internationale. Il y va de l'image et de la crédibilité de notre organisation. Procéder autrement serait, d'une part, encourager le Rwanda à poursuivre son agression, ses crimes de guerre et ses crimes contre l'humanité en République démocratique du Congo, et d'autre part, nourrir davantage la suspicion légitime des Congolais sur l'impartialité de l'ONU, ainsi que la complicité de certains de ses membres dans ces crimes. C'est pour mettre fin à cette suspicion et dissiper l'ambiguïté de certaines positions du Conseil de sécurité sur la crise sécuritaire à l'est de la RDC, ambiguïté qui excède la population congolaise et exacerbe la tension entre elle et la mission de l'ONU pour la stabilisation du Congo, la MONUSCO, que le gouvernement de mon pays a demandé la réévaluation du plan de retrait progressif et responsable de cette mission. Cette démarche d'ajustement est exigée par le constat unanime, même au niveau le plus élevé de notre organisation, des faiblesses regrettables de la MONUSCO, ce qui affecte certainement l'efficacité et la légitimité de l'action de l'ONU en République démocratique du Congo. La réévaluation du plan de retrait de la MONUSCO ne peut par conséquent nullement remettre en cause les relations entre mon pays et notre organisation.
Et toujours à New York, le président du Forum des intellectuels congolais de l'étranger attire l'attention de la Commission nationale indépendante sur les difficultés auxquelles elle pourrait faire face pendant les élections de 2023 auxquelles la diaspora prendra part. Le professeur Ngoï Joël Nshiso l'a déclaré à New York en marge de la 77e Assemblée générale de l'ONU où il a participé à un panel économique sur le développement de l'Afrique. En prenant l'exemple des États-Unis où il réside, il cite notamment la contrainte liée à la distance, ce pays étant un sous-continent, mais il ajoute également la difficulté technique du déploiement de matériel électoral à travers les 50 États des USA. On écoute le professeur Ngoï Joël Nshiso proposer quelques solutions au micro d'Alain Irung, envoyé spécial des Radio Okapi à New York.
Les contraintes auxquelles ils vont faire face. Prenons l'exemple d'un pays comme les États-Unis. Des grandes distances, des Congolais éparpillés à travers 50 États. Comment est-ce que vous pouvez organiser les élections congolaises dans un si grand pays? La Commission a pensé qu'il faut déployer les machines peut-être ou travailler seulement avec l'ambassade. Tout le monde n'aura pas la facilité d'arriver à l'ambassade. Cette même situation peut être répliquée dans d'autres pays comme la Belgique, la France. Et si nous, en tant que Congolais de l'étranger, nous étions contactés pour proposer quelques solutions, nous les irons par exemple exemple, a demandé à ce que la commission électorale négocie avec les commissions électorales de ces pays, comme les États-Unis, pour qu'ils leur accordent leur machine. Et à ce moment-là, les élections peuvent se passer dans plusieurs États plutôt que dans un seul État où vous n'aurez pas beaucoup de gens qui vont venir. La deuxième chose qui nous vient à l'esprit, la commission électorale est composée du gouvernement, la société civile et des partis politiques. Lorsqu'on vient à l'étranger pour faire les élections, allons-nous avoir la même configuration ou bien on reste seulement avec les ambassades comme c'était prévu par M. Kadima qui fait un très bon travail? Si vous vous arrêtez seulement à ce niveau-là, vous n'avez qu'une seule institution, le gouvernement. Que de quoi jeter peut-être beaucoup de discussions et de doutes sur les élections quand elles vont s'organiser.
Et signalons que selon son président, le Forum des intellectuels congolais de l'étranger est représenté dans plus de 40 pays à travers le monde. Au Sud Kivu, pendant ce temps, le discours prononcé hier à New York par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, devant l'Assemblée générale de l'ONU, semble avoir été bien accueilli par l'opinion publique. La plupart des personnes contactées à Bukavu apprécient les discours du chef de l'État, mais elles attendent que les paroles soient traduites en actes. Jean Kassami a échangé avec certaines d'elles. Suivez son reportage.
Moi, j'étais très ravi du discours de notre président. Mais la chose de grave est que nous avions déjà eu beaucoup de discours, mais il n'y a pas de suivi. Attendons voir, le discours quand même est très noble.
Nous, au Sud Kivu, sommes satisfaits parce que, pour une fois, le chef de l'État a épinglé effectivement ce que souhaitait la population. Nous sommes très ravis parce que ce que nous plairons, c'est ce qu'il a plaidé. Et là, on est satisfait quand il a épinglé le fait que nous sommes agressés par le Rwanda qui utilise les M23 comme sous-couvert. Là, nous avons été contents. Quand il a évoqué le silence de l'opinion internationale, ça nous a satisfait parce que, en réalité, quand il y a agression, quand il y a assassinat, quand il y a génocide, ça se dénonce par les Nations Unies, sauf seulement au Congo, où le silence est coupable.
Le discours pourrait rassurer. Mais le problème est que ce soit la communauté internationale, que ce soit nos pays voisins, ces gens auraient profité de l'absence d'un leadership responsable en RDC pour continuer à nous humilier. Que le chef de l'État fasse tout pour que le pays ait une diplomatie à la hauteur.
J'ai bien suivi. Je pense que si cela devait être appliqué, quand même, ça peut nous sauver. Donc, les retraites de la MONUSCO, c'est bon, mais ce n'est pas immédiatement. Puisque jusque-là, vraiment, il y a encore beaucoup de défis et nous avons encore besoin de ces gens.
En territoire des Rutshuru, au nord Kivu, la société civile continue à mettre la pression sur les autorités pour exiger la reprise par les FARDC de la cité frontalière de Bunagana, ainsi que de toutes les localités occupées par les rebelles du M23 depuis plus de 3 mois maintenant. Dans une déclaration faite hier mardi à Rutshuru, la société civile a indiqué qu'un mois après la promesse faite par le gouverneur militaire, le lieutenant général Constant Dima, de tout mettre en œuvre pour récupérer cette entité d'importance capitale pour ce territoire, rien n'a été fait sur terrain et la population déplacée continue à souffrir en milieu de refuges. Cette structure a annoncé une série d'actions pacifiques jusqu'à ce que Bunagana soit récupéré et que toutes les activités redeviennent normales. Des détails avec Blaise Sindani.
D'après le président de la société civile de Rutshuru, Jean-Claude Bambaz, des milliers d'habitants déplacés vivent dans des conditions inhumaines dans plusieurs sites privant leurs enfants de poursuivre leurs études. De plus, ils n'ont pas accès aux soins de santé ni aux services sociaux. Cette occupation a engendré d'énormes conséquences socio-économiques pour la population de Rutshuru. Une situation inacceptable. La société civile a annoncé une série d'actions, notamment le non-paiement des taxes pour exiger le retour de la paix et de la sécurité.
Nous devons nous liguer tous ensemble pour que les FARDC prennent leurs responsabilités afin de traquer ces bandits du M23 et leurs alliés. C'est comme ça que nous venons de décréter des sit-ins illimités à partir de ce jeudi. Nous venons de demander la suspension de la perception ou le paiement de toutes les taxes et impôts sur le territoire de Rutshuru. C'est nous qui payons ces impôts, nous la population, et du moment que nous voyons que les impôts que nous payons, nous sommes dans l'insécurité. Il n'y a pas de raison de continuer de payer les impôts pendant que nous sommes dans la difficulté.
Pour rappel, les rebelles du M23 occupent depuis plus de 3 mois la cité de Bunagana et ses environs. Ils y ont installé une administration parallèle et ont instauré notamment des travaux communautaires forcés en plus du couvre-feu à 19h locales, sans compter d'autres restrictions comme par exemple l'identification du bétail.
Et puis, en Ituri, 6 personnes sont mortes dans une nouvelle attaque des rebelles des ADF. Hier mardi, à Toli Toli,
village situé à 47 km de Mambasa Centre, sous la route nationale numéro 4. Selon plusieurs sources, ces rebelles ont également incendié 5 camions citernes transportant du carburant. La coordination de la société civile Force Vive parle d'un acte de sabotage qui coïncide avec la visite du Premier ministre qui est attendu ce mercredi à Bounia. L'administrateur du territoire de Mambasa parle plutôt de 2 morts, dont un rebelle des ADF et de 4 camions incendiés. Marcel Kiza Biamungu.
5 camions citernes transportant des produits pétroliers des Bounia vers Kisangani sont tombés dans une embuscade des hommes armés identifiés aux ADF appuyés par l'air supplétif des Mai Mai à Tolitoli. Selon plusieurs sources, ces rebelles occupaient déjà ces villages pendant la journée. Ils ont tiré à bout portant sur les chauffeurs d'un camion de nationalité somalienne qui est mort sur place. Ils ont ensuite abattu 5 autres personnes et incendié les véhicules et containers du carburant. Dans sa communication ce mercredi, la coordination provinciale de la société civile, les forces vives de l'Ituri qualifie cette nouvelle attaque des ADF de sabotage qui intervient le jour de l'arrivée à Bounia du Premier ministre Samalou Kondé. Son coordonnateur Dieudonné Lossa demande aux autorités de stopper ces violences des groupes armés à l'Ituri. L'administrateur assistant du territoire de Mambasa avance de son côté un bilan des 4 camions citernes incendiés et des 2 morts dont un chauffeur et un rebelle des ADF dont l'arme a été récupérée par l'armée. Il ajoute que les forces loyalistes poursuivent les ratissages pour neutraliser ces hommes armés en errance dans cette zone. Bounia, Martial Kizabiawongo, Radio Okapi.
On ne parlera plus des tueries et des actes de barbarie dans les territoires de Kwamout, Oma Indombé. Et désormais, la population de ce coin sera sécurisée. Cette déclaration est de Rita Bola, gouverneur de la province du Mai Indombé. D'après elle, toutes les dispositions sont déjà prises par le gouvernement central pour mettre fin aux violences enregistrées dans ce territoire à la suite des conflits entre les peuples Teke et Yaka. Elle annonce le déploiement dans un futur proche de nombre important de militaires et de policiers à Kwamout, ainsi que des moyens logistiques pour remettre de l'ordre. Rita Bola a été jointe par Irène Boma.
C'est vraiment une très bonne information suite à ma rencontre avec le chef de l'État, que je remercie en passant. Son Excellence Monsieur Antoine Tshisekedi Chilombo m'a fait participer à une autre petite réunion du comité de sécurité nationale. Voilà, tout a été déjà fait. Les moyens ont été déjà mis à la disposition. Et incessamment, ça peut être maintenant, ça peut être ce soir, ça peut être la nuit, ça peut être dans une heure. Donc tout est mis en place dans la route Bandundu Kintilimongata. Vous allez voir les dispositifs et je pense que... On ne parlera plus de Kwamout. Oui, on parlera du bien de Kwamout. Bon, le nombre exact, on ne peut pas dévoiler non plus. Mais je vous dis qu'il y a un bon nombre. Les généraux de l'armée, les généraux de la police sont là. C'est dans leur stratégie. La population de Mai Indombé, voilà, les bonnes décisions sont prises. Rassurez-vous, ce que j'ai vu de mes propres yeux, les dispositifs. Donc aujourd'hui, je peux dire, moi, que enfin, on va agir. Pour Kwamoutou, Kwamoutou sera encerclé. La présence des militaires et des policiers sera dans tous les territoires de Kwamoutou. Et on n'en parlera plus de ces tueries et de ces actes de barbarie.
Mettre fin au racisme, bâtir la paix, thème choisi. Cette année pour la célébration ce 21 septembre de la Journée internationale de la paix, une journée consacrée au renforcement de l'idéal de paix tant au sein des pays que des peuples entre eux. Pour cette journée, l'ONU invite toutes les nations et les populations à respecter une cessation des hostilités pendant cette journée et à marquer celle-ci par des activités d'information et de sensibilisation du public sur les sujets liés à la paix. Aujourd'hui, le racisme gangrène les sociétés, normalise la discrimination et alimente la violence, ce qui justifie le choix de ce thème. Sophie McLean fait partie de l'équipe spéciale de lutte contre les violences sexuelles basée sur le genre à la police des Nations Unies, UNPOL Bukavu. Elle nous parle de ce qu'elle a fait, de ce qu'elle fait tous les jours pour créer un monde inclusif dont elle est fière. Elle est dit au micro de Rachel Kissembangou.
Après avoir œuvré dans le domaine de la violence sexuelle et domestique dans mon propre île, Canada, j'ai décidé depuis l'année dernière de relever un défi personnel et de venir prendre part à la lutte contre les violences sexuelles basées sur le genre et les violences sexuelles liées au conflit en RDC à travers justement cette équipe spécialisée de police-là qui est ici à Bukavu au sein de la MONUSCO. Je me savais privilégiée avant de quitter ma terre natale, mais j'ai compris à quel point je l'étais en côtoyant le peuple congolais, les victimes Saint-Anne et aussi les OPJ des EPVS avec lesquels je mène principalement cette lutte. Je suis fière d'être ici à leur côté, de les appuyer du mieux que je puisse et d'assister à leur réalisation. Je me sens privilégiée encore plus parce qu'à tous les jours, je vois des Congolais qui œuvrent pour soutenir l'inclusion de différentes manières. En réalité, c'est nous qui nous imposons des limites, des couches inutiles de jugement, de préjugés, des craintes, sans avoir un fondement réel ou la connaissance de l'autre. La division en 2022 n'a absolument plus raison d'être. Il va falloir qu'elle fasse place à l'inclusion. Chacun de nous a droit à l'amour, à la sécurité et au respect.
Un incendie s'est déclaré hier mardi après-midi dans un parking de la commune de la Kenya, à Lubumbashi, plus précisément à l'angle des avenues du marché et circulaire, sans causer de pertes en vies humaines. On déplore cependant de nombreux dégâts matériels. La bourgmestre de la commune de la Kenya, qui déplore cet incident, appelle les commerçants de son entité à avoir la culture des assurances pour ne pas tout perdre en cas de sinistre. Des détails avec Jean Gandou.
Plusieurs heures après l'incendie, les feux n'est toujours pas maîtrisé à certains endroits. À d'autres, la fumée continue à se répandre, obligeant la plupart des personnes à se cacher le nez pour ne pas aspirer l'odeur qui se dégage. Un témoin trouvé sur place tente de relater les faits.
On était en train de souder les camions qui devraient se diriger vers Manon. Comme il y avait du carburant à bord, bon, ils ont commis une imprudence et puis tout est calciné. Vraiment, c'est triste. Il y avait au moins 28 fuites de carburant. Oui. Le brasier était vraiment énorme.
Les dégâts sont très importants. Il s'agit d'une dizaine de grands camions de marque OO transportant diverses marchandises, dont des dizaines de bidons d'essence, des mousses, des chaises en plastique, des sacs de poissons et autres qui sont complètement calcinés. Près de 10 magasins de vente de pièces de rechange et certains dépôts sont également touchés. À notre passage, nous avons rencontré les propriétaires de magasins qui fouillaient dans les décombres espérant retrouver quelques marchandises, mais hélas, pas grand-chose à récupérer. Jenna Maloba, bourgmestre de la commune de Kenya, qui déplore cet incident, se pose la question de savoir ce que deviendront les propriétaires de ces véhicules et surtout les propriétaires des marchandises, notamment pour ceux qui n'ont pas souscrit à la police d'assurance. Voilà pourquoi elle invite les transporteurs d'avoir la culture de l'assurance pour se faire indemniser en cas de sinistre du genre. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Et puis la Monusco Kalemie a remis officiellement hier mardi des ouvrages construits dans le cadre du projet Impact Rapide. Il s'agit d'un bureau moderne de la chefferie Tumbwe, un projet de renforcement de la présence et l'efficacité de l'administration locale. En outre, une grande école, un bureau de l'école et des installations sanitaires construites à travers un partenariat Monusco-UNICEF. Des détails avec Paulin Munanga.
Le bâtiment construit avec le financement de la Monusco Kalemie comprend un bureau pour le grand chef de la chefferie Tumbwe, un autre de l'état civil, une salle de réunion, trois locaux des échefins ou conseillers du grand chef. À côté, il y a des installations sanitaires. Le chef du village Moulouani, à 12 km de Kalemie, lieu où est érigé ce bâtiment, exprime sa satisfaction. Jean Kakouji. Je suis très content parce que c'est pour la toute première fois que je vois un bâtiment pareil dans mon village. Il va nous aider dans le développement de notre entité. Au village Likasi, non loin du village Moulouani, se trouve l'école primaire Vumilia financée par l'UNICEF qui l'a équipée avec 180 bancs. Il y a aussi un bureau du directeur de l'école et des installations sanitaires financées par la Monusco Kalemie. Le directeur de cette école salue cette initiative. Banza Mukala.
J'ai travaillé dehors. Maintenant, aujourd'hui, je suis très content d'avoir les bureaux. Les enfants se mettaient sur terre. Ils ont fourni aussi les bancs pupitres. Il y avait une construction en paillote avec des bâches dans lesquelles les enfants continuaient à étudier.
Signalons aussi que la Monusco est en train de financer la construction d'un centre de santé au village Pungwe, toujours dans la chefferie Tumbwe. Kalemi, Pole Munanga, Radio Okapi.
Actualité internationale.
En République centrafricaine, le président Faustin Archange Touadéra a installé la semaine dernière un comité chargé de rédiger une nouvelle constitution pour remplacer celle de 2016, issue des années de transition et qui serait soumise à référendum. L'opposition accuse le chef de l'État de vouloir changer le texte pour pouvoir briguer un troisième mandat fin 2025. Elle a saisi la Cour constitutionnelle qui doit rendre son verdict dans les prochains jours. Les autorités installées par Moscou dans quatre régions d'Ukraine ont annoncé hier mardi la tenue dans l'urgence du 23 au 27 septembre prochain des référendums d'annexion par la Russie en pleine contre-offensive ukrainienne. Une annonce qui a provoqué une vive inquiétude au sein de la communauté internationale.
L'invité.
L'invité de ce journal est le président des pétroliers du Maniema et conseiller en même temps provincial de la FEC en charge des hydrocarbures. Bayou Ali Nazareth parle de la hausse vertigineuse des produits pétroliers à Kindu, chef-lieu de la province du Maniema. C'est dans un entretien avec Florence Kizalunga.
Monsieur Babou Nazareth, bonjour.
Bonjour Madame Kizalunga.
Il y a hausse vertigineuse de carburant aujourd'hui. Qu'est-ce qui ne va pas encore?
Bon, je pense qu'il y a des choses que nous devons nuancer là-bas. Il y a la nouvelle structure de prix qui a été appliquée. Il y a une petite hausse de prix qui a été appliquée depuis le vendredi passé. Mais aujourd'hui, nous sommes en rupture des stocks dans la ville de Kindu. Nous autres, nous n'avons plus de carburant. C'est depuis hier que nous avons mis la corde dans toutes nos stations. Nous n'avons plus de carburant. Et nous venons d'apprendre que ce matin, les Kadhafi ont sur le prix de, peut-être qu'ils parlent de 10 000, de 9 000, de 8 500. Je n'ai pas trop de précision, mais il s'avère que le litre de carburant nage entre 10 000 et 9 000 francs aujourd'hui chez les Kadhafi, bien sûr, qui vendent au bord des chemins.
À tout moment, vous parlez des carences des carburants. Mais qu'est-ce qui fait défaut chez nous?
Bon, ce qui est la base d'abord, en premier lieu, c'est l'enclavement de la province d'Imanuma, la ville de Kindu en particulier. Elle est totalement enclavée. Alors, nous n'avons pas la facilité d'approvisionner les coins, d'où l'approvisionnement se fait dans des manières clandestines et très, très difficilement. Ça, c'est la première difficulté. La deuxième, c'est qu'il n'y a pas des infrastructures pétrolières adéquates, je voulais dire, pour recevoir des quantités importantes. La troisième difficulté, c'est que nous n'avons pas des SOCOM, nous n'avons pas des sociétés commerciales importantes qui sont installées au Maniema. Il n'y a aucune, comme c'est le cas, par exemple, des majors, Engen, Total, Kobil et les autres. Ils ne sont pas là, ils ne sont même pas approche du Maniema, sauf la société indienne qui est représentée par ma modeste personne. Donc, ce sont là les difficultés qui font que régulièrement nous soyons en rupture des stocks, surtout l'enclavement de la ville de Kindu.
Bon, parlant de l'enclavement de notre province, il n'y a pas longtemps, vous les pétroliers, vous avez initié un projet avec le gouverneur du Maniema et de la Tchopo pour la réhabilitation du tronçon Kisangani-Ubundu. Vous êtes à quel niveau avec ces projets?
Évidemment, c'est un projet qui était en vie, qui a même démarré. Moi-même, je me suis déplacé de Kindu à Kisangani. J'étais allé voir les gouverneurs des provinces. J'étais allé voir également le président de l'Assemblée. Nous avons échangé avec toutes les autorités dont je viens de citer là. Et il s'avère que les travaux ont vraiment évolué. Mais il manquait quelque chose, à peine 37 kilomètres qui restaient pour que la route soit complètement réhabilitée. Mais il y a des gros nids de poules qui ne permettent pas aux camions de passer. Surtout malheureusement qu'on est tombé dans la saison pluvieuse. Maintenant, il pleut presque chaque jour à Kisangani. Alors, cette saison aussi n'a pas permis de continuer avec les travaux. Donc, il y a rupture des financements, il y a Madame la pluie s'est invitée, donc c'est un problème sur un autre problème.
Pourquoi seulement le pétrolier du Maniema, vous vous impliquez dans la réhabilitation de cette route? Vous avez quel intérêt?
Bon, c'est parce que c'est la route là qui nous approvisionne en tout. Donc, tous les produits de première nécessité. Nous ne sommes pas que les pétroliers. Tous les commerçants qui vont en dehors du pays, en dehors de la province, qui s'approvisionnent en dehors du Maniema, la plupart passent par cette route là. Si ce n'est pas cette route, alors c'est la route de Bukavu. Si ce n'est pas la route de Bukavu, vous avez le train qui, vous savez vous-même la situation des chemins de fer. C'est pas moi qui peux expliquer parce que je ne suis pas approprié de le faire. Donc, c'est la route vraiment qui peut nous faciliter et d'abord qui est moins coûteuse.
Aujourd'hui, maintenant, la situation est grave. Quelles sont les pistes et des solutions que vous avez?
Ben oui, par rapport aux solutions, nous avons été invités hier par l'autorité provinciale à l'entremise de ce service. Nous avons échangé autour de ces sujets et nous lui avons donné des pistes de solutions. C'est par exemple, nous avons demandé que la SNCC nous secoure parce que nous avons des wagons déjà chargés à la SNCC. Moi, personnellement, j'ai plus de 2 wagons chargés il y a plus d'un mois à la SNCC Kisangani, mais qui attendaient d'être tactés pour arriver au Bundu et puis être acheminés à Kindu. Ça, nous avons donné le numéro de wagon. Nous avons demandé à l'autorité de s'impliquer pour que cela soit un peu fait rapidement. Et je pense, à mon avis, connaissant l'attitude du gouverneur quant à ces sujets, je pense que ça a été fait hier et nous attendons la suite de ces autorités-là.
Et entre-temps, qu'est-ce que vous nous dites?
Bon, ce que nous allons demander à la population, c'est de garder leur mal en patience parce qu'à l'impossible, c'est la grâce de Dieu nous suffit. Il est vrai qu'il n'y a pas de carburant dans la ville de Kindu et l'approvisionnement est difficile. Si c'était par exemple les coins comme Bukavu, Bukavu, c'est à un pas du Rwanda. Déjà, on peut voir avoir le carburant en quelques heures, mais à Kindu, il faut attendre des jours, hein. Si pas 3 à 4 jours, ça c'est sûr. Peut-être d'ici vendredi, on pourrait avoir des petites solutions, ça et là. Nous allons nous débrouiller comme des grands messieurs.
Monsieur Babou Nazareth, merci.
C'est moi qui vous remercie, madame.
C'était notre invité, le président des pétroliers du Maniema, en même temps conseiller principal de la FEC, en charge des hydrocarbures. C'est la fin de ce journal. Merci de continuer à les réécouter sur toutes les plateformes digitales de Radio Capi.